France Musique.
Très bonne fin de soirée à vous, Jérémy Rousseau. On vous retrouve sans faute demain sur France Musique.
France Musique.
Notre vie de tous les jours comprend bien des événements fixés à l'avance, écrits d'une certaine façon, répétitifs souvent, et d'autres totalement impromptus. Notre existence contient donc sa part d'improvisation, plus ou moins grande sans doute selon qu'on s'aventure et qu'on laisse entrer dans son cours les accidents, les aléas, les surprises, par choix ou par nécessité d'ailleurs. Et puis il y a les rencontres qui essaiment nos journées, nos mois, nos années, et sur la scène de notre émission à l'improviste, le 13 juin, deux musiciens ont joué justement le jeu de la rencontre impromptue de la toute première fois. Ils n'avaient, ces deux musiciens, jamais joué ensemble et ne connaissaient rien l'un de l'autre avant que l'idée ne me prenne de les réunir via l'improvisation. Nos micros ont saisi leur conversation, ils ont joué les intrus.
À l'improviste. Anne Montaron.
Dans À l'improviste ce soir, le clarinettiste Benjamin Bondoneau improvise avec le percussionniste Philippe Foch. Côté jardin, dans notre studio, Philippe Foch est assis derrière une batterie étendue. L'extension de cette batterie se fait dans toutes les directions, vers les pots, les métaux, un boîtier d'effets, un chaos pad, et beaucoup plus organique, vers des pierres aux formes étonnantes, dont Philippe Foch nous dira tout à l'heure la provenance. C'est le label Signature de Radio France qui m'a fait découvrir l'univers de percussionniste de Philippe Foch. Je connaissais son jeu de batterie dans Soleil Rouge et surtout dans un trio encore plus ancien, Les Amants de Juliette. Mais je ne l'avais encore jamais entendu jouer des tablas et l'album Tarang, paru l'année dernière sur le label Signature, m'a révélé un autre versant de son jeu et de son univers poétique. Dans notre studio, Benjamin Bondoneau s'évertue à nous laisser croire qu'il joue bel et bien de la clarinette et de fait, elle est posée sur la table derrière laquelle il se tient debout. Sur cette table, quantité d'objets, parmi lesquels un dispositif électronique. De ce boîtier magique, des sons vont sortir, un orage, des bourdonnements d'abeilles et des voix, parmi lesquelles celle de Roger Caillois. Benjamin Bondoneau vit en Dordogne et le paysage imprègne toute son activité de musicien et de plasticien. Quand il ne joue pas la musique en milieu naturel, il capture des sons dans des endroits choisis et les greffe sur les sons acoustiques produits par les instruments. Il aime de toute façon travailler le son, la prise de son. Concepteur d'une radio baptisée Radio Dordogne, producteur aussi de ses propres disques sur le label Casta, il a toujours dans sa valise quelques micros qu'il pose sur des tambours ou sur sa table de jeu pour amplifier les sons. Benjamin Bondoneau est donc bien plus qu'un clarinettiste improvisateur. Amateurs d'extensions en tout genre, donc Philippe Foch et Benjamin Bondoneau ont un sens certain du paysage et c'est sur ce terrain-là d'abord qu'ils se sont rencontrés le 13 juin dernier. Alors mettez un casque sur les oreilles, ce concert a été enregistré en binaural donc le son vous parviendra en 3D.
Thank you.
Les premiers échanges entre Philippe Foch et Benjamin Bandonneau, une entrée en matière dans les paysages qu'ils vont ensuite sculpter, une rencontre sans préparation ou presque, puisque les musiciens avaient choisi de faire connaissance avant.
Oui, on s'est vu une fois il y a 2-3 mois pour juste...
Faire connaissance.
Se dire un pré-bonjour, quoi. Faire un petit pré-bonjour pour voir un petit peu... Parce que je ne connaissais pas Benjamin, j'avais ce grand manque dans ma vie, en fait, de ne pas le connaître. Et voilà, donc c'était juste pour savoir qui on est, sur quel territoire on peut exister, quoi. Voilà. Ouais. On a improvisé et puis on s'est dit bon ben, ok.
C'est parti. Voilà. On y va. Ouais. Benjamin, quelque chose à ajouter là-dessus sur l'envie de se parler avant et de se rencontrer avant?
Ah oui, non, c'est pas mal de voir à quel humain on a affaire quand même. ça donne quelques informations. Non, mais oui, on s'est rencontrés une fois il n'y a pas si longtemps. On a travaillé tous les deux en fait sur les pierres, on va dire, de façon un peu parallèle, sans savoir ce que faisait l'autre. En fait, c'est vrai que ça a créé une forme de complicité aussi sur la matière même de ce que c'est que le minéral ou de le frapper, le couper, l'agiter. Donc c'est un accès plutôt sensible. Qui n'est pas un accès de minéralogiste scientifique, on va dire. Mais ça a créé une proximité, je pense, autour de la notion même de matière, quoi. Donc voilà, après, le lien s'est fait de façon assez fluide, je crois.
Thank you. Avec Benjamin Bandonneau et Philippe Foch, nous voyageons ce soir d'un paysage sonore à un autre par le truchement de l'improvisation. Si c'est en effet une première rencontre, les deux musiciens s'y sont préparés mentalement et physiquement, par exemple par le choix de l'instrumentarium qu'ils adaptent l'un l'autre à la situation. Et tu as choisi ton set aujourd'hui en fonction de ce que tu connaissais de Benjamin, de la discussion que vous avez eue.
Oui. Bah, c'est-à-dire, comme disait Benjamin, la pierre a été la chose qui nous a reliés, parce que j'ai vu son travail avec les pierres sur son site, après sur son album. Et comme il l'a dit, effectivement, on a retrouvé une forme de minéralité, enfin dans un sens très large, dans notre conversation, en fait. Et voilà, j'ai pris la batterie parce que c'est un meuble qui me permet quand même de pouvoir rebondir un petit peu plus sur ce que j'ai envie. Et j'ai pris ce grand, c'est un Bodhran, en fait, c'est un tambour irlandais qui fait 26 pouces, qui me permet vraiment de pouvoir être une table, comme un atelier de travail où je peux poser des choses dessus, gratter. Et voilà, ça, comme je suis plutôt un percussionniste d'origine, j'ai fait des tablas, donc je suis plutôt digital dans le geste. Une surface comme ça me permet de faire vraiment des choses expressives, enfin en tout cas qui veulent l'être, quoi. Voilà. Et les pierres, évidemment, c'est des pierres.
Elles viennent d'où, ces
souvent,
pierres?
Souvent, on ne les voit pas.
Ah oui,
elles sont toujours
à plat. Elles ont des belles formes, en plus.
Elles sont magnifiques.
Elles viennent d'Auvergne.
C'est extraordinaire, l'Auvergne. Et il y a vraiment des endroits, des spots, où tout d'un coup, il y a plein de pierres, quoi. Je suis vraiment allé chercher. En fait, c'est né il y a 10 ans d'une pièce que j'ai faite avec Philippe Le Goff, où j'ai commencé à travailler avec la matière, les éléments naturels. C'est une pièce qui s'appelait Jardin, où donc comme un espace comme ça, avec plein d'éléments de matière, donc des branches, des pierres, des cailloux, des roseaux, etc., du métal. Et je suis parti dans cette chose, et Philippe captait mes sons et les retranscrivait dans six haut-parleurs.
Les plus pauvres centre Césarée à Reims.
Oui, exactement. Ouais. Tout ça pour revenir au fait que le travail sur ça m'a vraiment énormément ouvert. C'était une espèce de manifeste pour moi de travailler vraiment sur la matière profondément. Donc, être obligé de trouver en soi, c'est une quête dans laquelle je ne suis qu'un pauvre débutant, mais vraiment cette chose où on existe en fait et on a juste à suivre ce chemin. Après, il faut vraiment rester dans la profondeur et ça, c'est la vie qui nous a. La même.
Alors, ton approche du minéral aujourd'hui, Benjamin, elle est peu visible, mais parle-nous un petit peu de ton travail sur les pierres. Tu es plasticien, par ailleurs.
Oui. Mon travail sur les pierres... Alors, j'ai fait un travail qui s'appelle Phonolithe, qui est issu d'un projet que j'ai fait autour de Roger Caillois, autour d'un livre qui s'appelle L'écriture des pierres, qui est un très beau livre.
Oui.
Qui parle à la fois de sa collection de pierres, mais aussi de tout un tas de glissements, on va dire, poétiques qu'il fait autour de formes. C'est-à-dire qu'il va trouver des analogies dans les pierres avec des formes qui sont dans la nature, ou des scènes qu'on trouve dans des pierres en elles-mêmes, ou plutôt, plus exactement, souvent, c'est des tranches d'agate, ou parfois certains types de marbre, qu'on appelle des marbres ruines, dans laquelle lui voit des images, et c'est vrai qu'il y a une espèce de, venant de lui, qui est vraiment, voilà, une forme d'intellectuel, qui s'autorise là pour le coup le principe d'analogie, quoi, qui est pas forcément toléré dans les milieux de penseurs, on va dire. Et donc, il donne lui-même un accès tout à fait poétique et décomplexé autour de ces éléments. C'est un très beau livre, un très très beau livre. Et donc, j'ai fait ce travail-là, en solo. Il y a un travail de peinture qui a été fait aussi autour des pierres, et j'ai sollicité tout un tas de collaborations pour me proposer des formes de partitions ouvertes autour du livre de Roger Caillois. Donc voilà, ça donnait lieu à un disque et puis à un travail, une suite de peinture autour des pierres.
Est-ce que tu as donné à Philippe ce disque à entendre ?
Oui.
Oui, ah voilà.
Oui,
je
oui,
comprends
oui, oui.
mieux hein, l'entente qu'il y a aujourd'hui dans la musique. Oui. Et puis, tu t'intéresses aussi beaucoup à l'univers de la ruche.
Oui, bah oui, depuis 3, 4 ou 5 ans, il y a un projet qui s'appelle La Ruche à Son, qui est un projet autour des abeilles et du monde apicole, qui est une forme de très grosse installation sonore et lumineuse, dans laquelle on joue à 3, avec Sébastien Sirotto et Benjamin Momus, Voilà, c'est une installation qui comporte, je sais pas, une quarantaine de haut-parleurs, je crois. Du son, de la cire, beaucoup de cire. Beaucoup d'éléments autour du travail de la miellerie aussi. Comme tous les projets qui sont liés aussi autour du châtaignier bleu, c'est des questionnements autour du paysage sonore ou comment l'abeille en elle-même raconte une forme de... Elle est médiatrice du paysage par le fait de sa propre cartographie de ces espaces qui sont liés évidemment toujours à la nourriture et à l'eau. Et c'est un travail de réflexion artistique en tout cas autour de cette approche sensible de ce petit insecte qui fonctionne autour de l'intelligence collective et où il y a des accès, des analogies souvent aussi qu'on peut faire avec le monde dans lequel on évolue.
Alors il y a une trace de cette ruche à son sur ta table là. Il y a ce fumoir, c'est ça ?
C'est un enfumoir.
Un enfumoir, oui. Ouais.
C'est ce qui permet de... On se sert de ça quand on visite les ruches, pour les tempérer un petit peu. En fait, on leur fait croire qu'il y a un incendie qui se déclenche dans la ruche, donc elles se regroupent dans le corps de ruche, et elles pensent moins à attaquer, en fait. Donc ça les ramène, a priori, plutôt dans le centre, mais...
Tu peux nous le faire entendre comme ça, seul ?
Donc c'est simplement un soufflet qui fait ce son-là. Voilà, c'est un très bel objet.
Oui, il est beau plastiquement aussi. Ouais.
L'intérêt pour les pierres est naturellement, on peut dire, non seulement contemporain, l'homme, mais il est intérieur. Il est évident, vous connaissez l'art de la pierre taillée, l'art de la pierre polie, il est évident que la première hache en pierre ou la première flèche en obsidienne un changement dans le développement de l'homme, mais je crois que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir de quel moment les civilisations ou les hommes ou les artistes se sont aperçus que les pierres leur apportaient quelque chose qui était comparable à ce qu'ils s'efforçaient de faire, de chercher, de créer exprès. La pierre, c'est bien dit, c'est pas leur nature minéralogique. Pierre même en fait.
Il n'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi dans la musique matière jaillie le 13 juin dernier à Radio France de l'imagination de Philippe Foch aux percussions et de Benjamin Bondono, clarinette étendue. Une confusion des sources sonores qui est à peine dissipée quand on regarde agir les musiciens. Notre vidéo filmée ce jour-là vous donnera malgré tout quelques éléments. L'extension par l'électronique n'y est évidemment pas pour rien. Benjamin Bondono explore dans cette direction depuis quelques années déjà.
En fait, c'est vraiment né avec la ruche. Pour le coup, avec la ruche à son, parce qu'on avait, développé un peu une forme de lutherie interactive. Donc on avait tout un tas de pupitres qui permettaient d'envoyer le son voilà, à droite, à gauche, en haut, des sons qu'on émettait nous, ou des sons de collectés. On a collecté beaucoup de sons dans les ruchers et chez les apiculteurs. C'était un peu l'enjeu aussi du coup d'être... De cette position-là, parce que c'est vrai que les apiculteurs sont multitâches aussi, ils élèvent du mouton, enfin ils sont vraiment sur une activité, donc ça nous intéressait d'être dans une approche comme ça, protéiforme. Après, pour moi, peut-être plus personnellement, il se trouve que du côté de la peinture, j'ai vraiment, je travaille beaucoup plus sur le collage, on va dire, le mélange d'éléments très hétéroclites. Et dans le son, il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Ça crée un nombre de surprises permanentes parce qu'évidemment, rien n'est tout à fait maîtrisé. Que ce soit les effets ou les petits objets qui se promènent tout seuls, où je suis amené, moi, à les suivre ou à les... Il y a quelque chose, en tout cas, dans la méthode de travail qui permet vraiment, je trouve, moi, de dédramatiser. Il y a l'idée de produire des matières ou de produire des sons qui, de toute façon, une fois qu'ils sont émis, disparaissent. On a quand même le pied dans la ruine en permanence, hein, avec l'improvisation.
Philippe, les percussionnistes, eux, ont l'habitude de la dispersion. Ils sont au centre d'un dispositif, mais...
Au centre de la dispersion.
Oui, on peut beaucoup se disperser.
Oui.
Alors, comment retrouve-t-on le centre?
Il faut respirer. Hein.
Justement.
On est condamné à respirer devant l'autre.
Oui.
Non, c'est dans... Oui, c'est vraiment... moi, j'ai une appréhension assez sensuelle de la percussion, des matières, des timbres. Donc évidemment, quand on tape sur une pierre ou quand on effleure une peau, c'est pas la même pensée qui vient, pensée charnelle, quoi. Thank you.
Ils ont improvisé ensemble, en public pour la première fois, le 13 juin dernier. Projeté dans le feu de l'action, celui inhérent à toute improvisation, Benjamin Bandonneau et Philippe Foch ont échangé pendant quelques 40 minutes des sons, comme on échange des mots au cours d'une conversation impromptue. Certaines conversations nous donnent envie d'en susciter d'autres. Je crois que c'est le cas de cette première discussion musicale entre les deux musiciens, amenée sans doute à se retrouver musicalement dans d'autres contextes. Il y a eu comme cela au fil des années, dans À l'improviste, quelques premières rencontres qui ont pu mûrir et se développer avec le temps. Ce concert est venu jusqu'à vous ce soir grâce à Bruno Mourlan, Pierre-Henri et Philippe Mercher. C'est Françoise Cordier qui a réalisé cette émission avec Valérie Lavalard et Soizic Noël. Retrouvez les images de ce concert filmé par Camille Garin sur notre site d'émission. Je vous recommande aussi de jeter vos deux oreilles sur l'album Tarang de Philippe Foch sur le label Signature et de regarder et écouter les beaux objets visuels et sonores de Benjamin Bandonneau, une production du Châtaignier Bleu et du label Casta, notamment l'album Phono autour de Roger Caillois.
ruines, comme on les appelait, ou les pierres invasures, qui sont des pierres qu'on a trouvées à cette époque-là, on en trouve encore d'ailleurs, mais il paraît que le gisement commence à s'épuiser, mais des pierres que l'on trouve sur les bords de l'Arno, un peu en amont de Florence, et qui ressemblent à des villes embrasées ou à des villes ruinées, des minarets, des beffrois qui s'écroulent, des palais en ruine. Et ça a beaucoup intéressé les peintres qui les ont complétés, parce que dans ces malheureuses villes ruinées ou démolies, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de personnages. Alors quelquefois, ils ont ajouté à la pierre les personnages, ça portait un nom, c'était un exemple d'invention conjuguée de la nature et de l'homme, et des disciples de Poussin, par exemple, Jacques de Stella, par exemple, on en peint, et ça figurait à l'époque dans des cabinets de curiosité. Ben voilà, je crois, un exemple typique, d'abord de collaboration de l'homme avec la nature, et de collaboration, peut-être un peu plus, de connivence.
Il est minuit 15 sur France Musique. Tous les châtaigniers sont bleus la nuit. Il est temps de le vérifier en écoutant nos programmes de nuit.